Bismillahirrahmanirrahim. Avant de reprendre le cours, donc les deux librairies qui sont à la sortie, que ce soit celle-là qui est en haut, vous avez deux librairies, il y a le Boustan et il y a l'autre librairie qui est en face de la boulangerie. Normalement, l'Institut, on a un contrat avec eux, donc ils nous font une réduction de 30%. D'accord. Donc surtout celle qui est en bas, bon celle-là elle est beaucoup plus arabophone, celle qui est en bas, il y a beaucoup de livres qui sont traduits. Donc le propriétaire, c'est un des élèves de Cheikh Al-Bouti. Donc l'inauguration, il y avait Cheikh Al-Bouti qui était là, grand savant de Syrie. Donc avec réduction, mais il faut lui dire que vous venez de l'Institut, des fois il ne veut pas faire 30%, il fait 20%. Mais si vous voulez acheter des livres, vous me dites. Alors, ce que je voudrais vous faire passer, ce livre-là, je vais vous faire passer dans les rangs. La non-conformité aux quatre doctrines, des quatre écoles, est la plus dangereuse hérésie qui menace la loi divine. La non-conformité aux quatre. Donc, il parle, c'est très très bien traduit. Donc, le livre est en arabe, il traduit. La madhabiya akhtaru bid'atin tuhadidu sharia al-islamia. Donc, je le laisse passer entre les rangs. Alors, ceux qui sont intéressés, on fera passer une feuille. Ceux qui sont intéressés de l'acheter, ils marquent leur nom. Je ne sais même pas, il fait combien. De toute façon, on a 30% de réduction. D'accord. Moi, je le recommande à tout le monde. Il est très, très, très intéressant de voir pourquoi nous devons suivre une école et s'armer d'arguments, etc., etc., vis-à-vis de ceux qui disent, oh, pour nous, de toute façon, on suit les livres et la sunna, etc. Donc, je vous laisse ce livre-là. Passer entre les rangs et soit vous le notez si vous voulez, ou bien ceux qui veulent l'acheter, on mettra une liste et ils écrivent leur nom et je les achèterai la prochaine fois et je vous donnerai les ouvrages. Voilà, donc je te laisse passer le livre. Oui. Après avoir terminé. Après avoir parlé sur les anges, les scribes et le Havala, les protecteurs, comme on a dit, on va parler de la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Sourate Ar-Rahman, Kullu man alayha fan, toute chose qui sera sur cette terre aura une fin. Kullu man alayha fan. Alors, bien sûr, Kull, ça c'est-à-dire toute chose qui aura. Kull ici, toute chose, c'est-à-dire. Bien sûr, toute chose. Aura une fin, mais il y a des spécificités, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, inshallah, dans les cours qui vont venir, qu'il y a des créatures qu'Allah azzawajal a voulu qu'elle ne sera pas anéantie. D'accord? Donc, toute chose, cet univers-là, le monde sera anéanti. La créature, dans son ensemble, aura une fin, bien sûr, avant qu'il y ait une résurrection, mais quand même, Allah Azza wa Jalla nous a spécifié quelques créatures telles que le trône, telles que la plume, telles que la table bien gardée, telles que les âmes, telles que le coccyx des hommes, telles que l'enfer et le paradis, etc. Donc on a quand même des créatures dont on verra, Inch'Allah, qui ne s'anéantiront pas. Mais toute âme dans cette vie d'ici-bas aura une fin. Toute chose s'anéantira sauf sa face. Alors, sauf la face d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, sauf la face d'Allah? C'est-à-dire, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il ne faut pas croire ce qu'on nous raconte, comme là, il y a trouvé des gens, ils disent, Allah, il a un visage, il a des pieds, il a une main, etc. Il ne faut pas croire à cette croyance. Donc, Allah, azza wa jal, il a une essence, mais qui ne ressemble à aucune essence, d'accord? Laïsa kamithlihi shay, rien ne lui semblable, ni dans son essence, ni dans ses actes, ni dans ses attributs. On l'a vu, cela, c'est la règle, rappelez-vous. Allah Azzawajal nous a interdit de penser à son essence. D'accord ? Il n'a pas de comment. Donc, tout ce que tu penses, ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de penser. Donc, par contre, il nous renvoie toujours, comme je l'ai dit tout le temps, à ses attributs. Ne voit-il pas comment Allah Azzawajal a créé les chameaux? Ne voit-il pas les cieux, comment ils ont été créés, comment ils sont tenus? Ne voit-il pas? Fanzur ila nafsika thumma intaqili للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صدعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. C'est-à-dire, regarde, en toi, tu trouveras un monde extraordinaire, que comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé ton cœur, les yeux, comment a créé en toi le sang, comment il fonctionne. Chaque organe est un monde à part qu'Allah Azza wa Jal a fait en nous, que nous devons méditer et découvrir et penser aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Donc cet univers-là n'est qu'un reflet des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est une manifestation, c'est-à-dire c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous renvoie « Tafakkur sa'a khayrun min ibadati sana » comme on dit. C'est-à-dire que le fait de méditer, de se penser à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la volonté d'Allah Azza wa Jal, tout cela nous renforce, nous donne de la foi. On dit, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal a fait que l'œil, comment il fonctionne. L'être humain, il se réveille, il sort du ventre de sa mère, hop, tout fonctionne. Est-ce que c'est lui qui a fait fonctionner son œil? Attention, là, quand les rayons, hop, réflexion, quand je mange, attention, quand je mange, écoute, toi, l'estomac, tu fais ça. Hein. Lui, il a trouvé toute chose fonctionne en elle-même. Il ne fait rien du tout. Donc, au contraire, il est... Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit le verset, sont interminables. Si on passe notre vie à compter, à comptabiliser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés en nous et dans cet univers, on ne terminera pas. Notre vie sera terminée, on ne terminera pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors la mort touchera chaque être humain, touchera toute chose. Pour les prophètes et les martyrs qui meurent, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi les saints, bien sûr, ils goûteront à la mort, mais ils sont vivants. Donc ils passent d'un monde à un autre. D'accord ? Qala ta'ala, wa la tahsibanna alladhina qutilu fi sabilil amwat, bal ahya. Mais ils sont vivants. Mais c'est une vie dont on n'a pas beaucoup d'informations. C'est une vie que nous, on n'a pas accès. D'accord ? Donc c'est une autre vie, ça appartient à un autre monde. Les prophètes, les saints, les martyrs, ils sont vivants. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Il est vivant, pas comme notre vie. C'est un autre monde, c'est une autre vie, mais il est vivant. Il a conscience en nous. La preuve du hadith, où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous me dites assalam, Allah azza wa jalla me rend mon âme, et je vous dis alaykum salam. Il y a toute chose, tout le temps, les gens viennent voir Sayyidina Rasulullah, ils lui disent salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Jérusalem, à Al-Quds, il y avait tous les prophètes qui étaient derrière lui. Il ne peut pas un mort prier, un vivant, et derrière lui des morts. Sinon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, rappelez-vous, quand on a parlé des prières, il a rencontré plusieurs prophètes, il a rencontré Sayyidina Moussa, et on a profité du conseil de Sayyidina Moussa, il lui a dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de diminuer le nombre de prières, parce qu'au début c'était 50. Donc nous, les vivants, si Sayyidina Moussa il était mort, nous n'aurions pas profité de son conseil. Il a dit à Sayyidina Rasulullah, demande à Allah Azza wa Jal d'alléger le nombre de prières. Et il a demandé, c'était 50 prières, elles sont devenues 5 prières, mais elles ont la valeur de 50 prières. Donc nous, on a profité. Donc les prophètes, les martyrs, les saints, ils sont vivants, mais une vie dont on n'a pas beaucoup d'informations, c'est un autre monde. On a quelques informations à travers quelques hadiths et quelques commentateurs de l'exagère qui nous informent un petit peu de ce monde dont on ne connaît pas grand-chose. Oui. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Az-Zumur, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. C'est-à-dire tu mourras, ils goûteront tous de ce que c'est que la mort. Alors la mort, c'est quoi pour un musulman? C'est un transfert d'une vie à une autre. C'est-à-dire on passe d'un monde à un autre monde. Contrairement aux athées ou qui te disent non, in hiya illa batunun tadfa wa ardun tabla. Ce sont que des ventres qui donnent des naissances et ce qui terre qui absorbe les hommes, il devient des engrais, de la poussière. Assalamu alaikum. D'accord. Concernant le corps, oui, on peut voir des corps qui deviennent après avoir été décomposés, ils deviennent de la poussière. On la voit, d'accord. Oui, mais l'âme, elle est où? Pourquoi vous avez deux corps, un vivant, un mort? Celui-là, il bouge, il parle, etc. et celui-là, il ne bouge pas. Donc, il y a une différence entre eux. Donc, il y a l'âme, roh, hein, et dans ce corps-là, il n'y a pas d'âme. C'est pour ça qu'il ne bouge pas. Alors, celui-là, il s'est décomposé, machin, etc. Mais l'âme, est-ce qu'elle s'est décomposée ou non? Non. Donc, c'est-à-dire, ils ont ce problème-là. Les gens qui sont athées, qui croient qu'à la matière, ils doivent répondre à ce genre de questions. Puisque matériellement, ce sont deux choses, deux corps qui ont les mêmes caractéristiques, mais celui-là, il bouge, il est vivant, etc. Quelle est la différence? La différence, c'est que celui-là, il a une âme, et celui-là, il n'a pas d'âme. Celui-là, il est vivant, celui-là, il est mort. Donc l'âme, elle n'est pas dans le corps, elle est ailleurs. D'accord? On en parlera, Inch'Allah, quand on parlera aujourd'hui, que juste sur la mort. Donc, « min hiya illa nuqlatun min hauna », ce n'est qu'un passage d'un monde à un autre. On en parlera, Inch'Allah, sur la question de l'âme, hein, que la différence entre l'ego et l'âme, et l'intellect, l'aql, et où elle se situe l'âme, dans le corps. Les savants, ils ont discuté cette question-là. « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Al-Imran 185. Il y a beaucoup de hadiths aussi qui parlent de la mort. Pardon. « Wa yaqbidhu ar-ruha rasulul mawti »« Qul yatawafakum malakul mawti alladhi wukila bikum » Sijda, verset 11. Sachez qu'il s'occupera de vous enlever vos âmes, ça, il prendra votre vie, il prendra l'âme de l'homme, l'ange de la mort, on en a parlé, Azrail, on a parlé quand on a détaillé cette question-là, que l'ange qui est, bon, c'est subordonné, c'est pas lui qui va prendre, mais il a responsabilisé, donc, c'est-à-dire là, c'est Awan, c'est-à-dire les anges qui l'aident dans cette tâche, c'est eux qui vont prendre les âmes de chaque être humain. Donc, les savants disent que l'âme, elle est dans le corps. Dans chaque partie du corps, il y a cette âme-là. Hein, bien qu'on va le détailler. Elle est partout dans le corps. On ne peut pas dire qu'elle est concentrée dans un endroit. Alors, elle est partout dans le corps, mais elle est concentrée dans... elle est concentrée, elle se trouve dans la tête, et c'est-à-dire de la tête jusqu'à... C'est-à-dire elle est concentrée dans le... Comment on dit, l'abdomen, c'est ça? Jusque là. C'est-à-dire elle n'est pas concentrée dans les mains ni les pieds.
Pas les membres.
Pas les membres, c'est-à-dire ni les mains ni les pieds. Mais par contre, elle est concentrée de la tête jusqu'au corps, à part les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que quand on coupe la main de quelqu'un, est-ce qu'on a coupé une partie de son âme? Si vraiment on dit l'âme, elle est partout. Elle bouge, la main bouge. On coupe pas l'âme, elle se coupe pas. Parce que c'est un corps, l'âme c'est un corps. Jismun shaffaf, c'est-à-dire il est comment dire, hein, subtil. Il y a un mot, il m'échappe en français, comment on dit shaffaf, latif. Latif, comment on peut traduire latif? Comment? Latif, c'est-à-dire léger, doux. Je vais chercher le mot, hein. Il faut que je le trouve. Je cherche le mot. De toute façon, l'âme, elle est légère, elle est subtile, elle est fine, elle est nourania, lumineuse. Donc, elle se concentre dans le corps. Si au moment où la main elle est coupée ou le pied, elle se rétracte. C'est-à-dire, elle sort du. C'est pour ça que vous avez la main. Avant que la main soit coupée, elle bouge, elle fait des gestes. Donc, il y a l'âme qui est là. Une fois que la main est coupée, l'âme se rétracte, elle rentre dans l'abdomen, et on a la main coupée à côté, mais elle ne bouge pas, puisque l'âme, elle n'est pas dedans. D'accord? Donc les savants, ils ont dit, comme l'eau, elle est dans le... Si vous prenez un arbre, n'importe quelle partie de cet arbre-là, vous allez prendre une feuille, la tige tout au bout, vous coupez, vous trouvez un peu d'eau. Ils ont dit, c'est de la même façon, l'âme, elle est partout dans le corps de l'être humain, mais elle peut se rétracter une fois qu'on veut couper l'organe ou le membre. Par contre, si on coupe la tête, non. C'est-à-dire qu'on a touché à l'âme, elle sort du corps. Donc, elle ne se divise pas. Par contre, elle sort du corps, donc le corps devient mort. C'est comme ça que les savants... Donc, il y a une grande discussion. L'imam Malik, l'imam Subki et d'autres... Hein, on traitera avec détail, Inch'Allah, quand on y arrive. Mais aujourd'hui, pour la question de la mort, c'est que l'âme va être prise par l'ange qui s'occupe de la mort, ses subordonnés, et que le musulman passera d'un monde à un autre monde. On parlera, Inch'Allah, de la question de la tombe, on parlera des âmes, où est-ce qu'elles partiront une fois que l'être humain mourra, on partira comment il peut y avoir soit un châtiment vis-à-vis de mécréants, de celui qui a fait que du mal dans cette vie, qui des péchés dans sa tombe, et que celui qui va vivre ce qu'on appelle un petit paradis, et qu'il sera dans une sorte de c'est-à-dire de savour, de vie, dans les délices, même dans sa tombe qui va être élargie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera dans sa tombe à ce croyant qui va être destiné au paradis, il lui montrera son lieu où il vivra au paradis, et il dira, ya Allah, fais de telle sorte que la qiyam, que le jugement dernier arrive le plus vite possible, parce que tellement cet endroit-là où il va vivre, il est extraordinaire. Et vice-versa, il montrera Allah subhanahu wa ta'ala à travers une fenêtre au mécréant, au celui qui était destiné à aller en enfer, son endroit en enfer, et qu'il va, par rapport à ce qu'il est en train de subir dans sa tombe, parce qu'il y aura un châtiment dans la tombe, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il attend, il demandera, il dit, ya Allah, à cet endroit-là qui m'attend en enfer, fais de telle sorte que la qiyama retarde là le plus que possible, parce que ce qui m'attend, c'est la ilaha illallah, subhanallah. Quand on lit, inshallah, on arrivera, quand on parlera, j'espère qu'on aura le temps, avant la fin de l'année, de parler un petit peu de ce que c'est que l'enfer, et parler un petit peu de ce que c'est que les paradis, et comment, nous, en tant que musulmans, on, c'est-à-dire les délices du paradis et les châtiments de l'enfer, etc., etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a... On parle maintenant, on a parlé de la mort, maintenant on va parler du ajal. C'est-à-dire, on dit, l'ajal, c'est le... C'est-à-dire, le temps qui était destiné à vivre pour la personne. C'est-à-dire, lui, il a été tué, il avait 28 ans, miskin, il sort de la maison, hop, dans les escaliers, il y a un, il l'a intercepté, il lui a donné un coup de poignard, il l'a tué. Est-ce qu'il était destiné à vivre 80 ans, 8 ans, hop, l'autre, il a coupé sa vie? Non, non. S'il est mort, bien sûr, celui qui l'a tué porte la responsabilité, mais Allah Azza wa Jal a voulu que cette personne meure dans cet âge-là. D'accord. Question, maintenant, on a parlé de la mort, maintenant on passe à la question du ajal. On appelle ça en arabe ajal, c'est-à-dire le nombre, hein, le nombre d'années dont Allah Azza wa Jal a décidé pour chacun de nous de vivre. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-A'raf, verset 34, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand l'heure de la mort qu'Allah Azza wa Jal a décidé, à laquelle, c'est-à-dire à la seconde même, que l'homme doit mourir, il ne peut retarder d'une seconde, comme il ne peut l'avancer d'une seconde. Donc il ne pourra pas, c'est-à-dire même toute l'humanité va se décider, celui-là, Allah Azza wa Jal a décidé qu'il meurt à 8h25, il mourra à 8h25, ce ne sera pas 8h24, ce ne sera pas 8h26, ce sera 8h25. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. On rapporte l'histoire, je vous ai raconté de l'histoire de Sidna Sulayman avec son vizir, il y avait l'ange de la mort qui rend visite à Sidna Sulayman. Il était du côté de Quds, hein, du côté de Palestine, et le problème c'est que l'ange de la mort, il avait rendez-vous avec ce vizir en Inde, et à la seconde même, il le voit, dans quelques secondes, il devrait prendre son âme. Mais il le voit avec Sidna Sulayman en Palestine. Donc il le fixait comme ça. Et quand il est parti, parce que pour l'ange, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il lui a dit de faire une chose, il va la faire. Je veux que tu prends l'âme de telle personne dans tel endroit à telle heure. Donc lui, il était un peu étonné. Il s'est dit, Allah Azza wa Jal m'a dit de prendre l'âme de telle personne en Inde, dans quelques secondes. Et il n'y a pas d'avion, il n'y a pas rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, à la seconde même, ce monsieur, qu'est-ce qui se passe là? L'ange fera ce que Allah Azza wa Jal. La yasun Allah ma amalahum wa yaf'alun ma yumarun. Ils ne font qu'obéir de ce que Allah Azza wa Jal. L'ange, il est parti de la mort, il est parti vers cet endroit-là en Inde. Et figurez-vous, il trouve dans cet endroit même, à la seconde même, il trouve le wazir, c'est-à-dire le de Sidna Sulayman. Comment? Alors le wazir, en voyant ce personnage le fixer comme ça dans les yeux, il est allé demander Sidna Sulayman. Il lui dit, c'est qui lui qui était là tout à l'heure? Il n'arrête pas de me fixer dans les yeux. Il lui a dit, c'est l'ange de la mort. Il lui a dit, alors, il y a Sulayman. Il lui a dit, c'est l'ange de la mort, il me fixait depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux demander à Allah Azza wa Jal? Parce que parmi les miracles qu'Allah Azza wa Jal a donné à Sidna Sulayman, il demande à Allah Azza wa Jal, elle porte le vent, lui porte ce qu'il veut. Toute une armée, le vent la porte, hein, pour prendre une armée, des milliers de personnes d'un endroit à un autre. Il lui dit, demande à Allah Azza wa Jal que ce vent-là me porte vers un endroit tellement loin. Il lui a dit, tu veux aller où? Je vais aller en Inde. qu'il me prend en Inde, c'est-à-dire de Palestine en Inde, c'est-à-dire, ouf, là, je suis loin de l'ange de la mort, et il l'a porté, c'est-à-dire, l'autre, il l'a trouvé là-bas, il l'attendait, donc, à la seconde même, il l'attend dans le même endroit où Allah, Azza wa Jal, lui a dit, tu prendras son âme. Et il a pris son âme à cet endroit-là, pour dire que, c'est-à-dire, Al-Qadar, Al-Ajal, c'est pour ça que le musulman ne devrait pas être effrayé de ce que, comme dit l'autre, ayu yawmayni min al-mawti afir. Yawma la yuqdaru aw yawma qadir. Yawma la yuqdaru la arhabuhu wa min al-maqduri la yanjul hadir. Quel est l'un des deux jours dont j'ai peur, faut pas avoir peur. Est-ce que c'est le jour où il est mon qadar? Si c'est mon qadar, Allah a décidé, il faut pas avoir peur, de toute façon tu n'échapperas pas. Ou bien c'est le jour où il n'est pas été écrit que je meurs. Il ne faut pas avoir peur, puisque Allah n'a pas écrit que tu mourras ce jour-là. Donc c'est pour cela que le musulman doit avoir toujours la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et accepter le qadar. C'est pour ça, dans le hadith, an yu'mina bil qadari, c'est-à-dire l'accepter ce qadar qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Le qadar, on ne le connaît pas à l'avance, mais une fois qu'il s'est passé, on dit ça c'est du maktoub, ça c'est du qadar. Mais on ne le connaît pas à l'avance, il ne faut pas dire... Ah, moi, mon maktoub, c'est pas de... Bah non, tu sais pas ton maktoub. Moi, c'est mon maktoub de ne pas aller travailler aujourd'hui. Bah non, tu sais pas. Une fois que ça s'est passé, tu dis, ah, c'est le qadar. Sina Omar ibn al-Khattab, quand il avait envoyé toute une armée pour libérer un pays, c'est-à-dire qu'il était, que les musulmans, on les a pas laissés, on les a empêchés de rentrer dans un pays pour propager l'islam. Donc, les gens qui étaient dans ce pays-là, c'était des non-musulmans, ils ont déclaré la guerre aux musulmans. Alors le chef de l'armée a envoyé Sina ibn al-Khattab, lui a dit, voilà, on va rentrer dans une ville, mais il y a la peste, Ta'oun. Sina ibn al-Khattab lui a dit, vous ne rentrez pas, il ne faut pas rentrer. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il y a la peste dans un endroit, ceux qui sont à l'intérieur de la ville ne sortent pas, et ceux qui sont à l'extérieur ne rentrent pas. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé déjà de la question de la contamination, des virus, etc. etc. Alors, on l'a vu ici en France, hein, quand il y avait au Mexique, etc. On demandait aux gens qui sont au Mexique de ne pas venir. Et si c'est-à-dire, on déconseillait aux gens d'aller vers tel endroit, attention, parce qu'ils n'y allaient pas, parce qu'on peut apporter le virus, etc. Alors, le général de l'armée musulmane a écrit une lettre à Sidna Omar Bakhtam en lui disant Ya Omar, tu fuis le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fuis le qadar. Alors, il remet directement Sidna Omar en place, il lui dit Nafiru min qadarillah ila qadarillah. On fuit le qadar vers le qadar. Hein. Si je rentre, c'est un qadar. Je rentre pas, c'est un qadar. Autant choisir le qadar de me protéger, de protéger mon armée. De toutes les façons, le qadar, tu ne le sais pas à l'avance. Mais une fois qu'il s'est passé, tu dis, je l'accepte puisque c'était le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut travailler, il faut faire les choses. Et le résultat, c'est Allah Azza wa Jal qui décide comment il est. Et on l'accepte parce qu'on découvre qu'il est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le ajal, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Quand la personne elle est dans le ventre de sa maman, une fois que les anges lui soufflent, c'est-à-dire l'âme, yuktab lahu rizqo, on parlera de ce que c'est que rizq. Rizq, c'est-à-dire c'est ce que tu vas consommer dans ta vie. Ce n'est pas seulement ce que tu vas manger, ce que tu vas consommer, habits, voiture, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu as. Tout ce que tu consommes, ça s'appelle rizq. Il peut être... Ton moulk, tu peux être quelque chose que toi tu possèdes, mais c'est pas la chose que tu vas consommer. J'ai acheté une veste, c'est la mienne, je la possède, mais c'est mon frère qui la met tous les jours, ou c'est mon ami qui la met tous les jours, et c'est son rizq, mais c'est mon bien. D'accord? Donc le rizq, c'est-à-dire ce que l'être humain consomme dans sa vie, peut être quelque chose de haram, peut être quelque chose de halal, peut être quelque chose de makruh. Donc si quelqu'un a volé quelque chose, bien sûr, ça fait partie du risque qu'Allah a écrit qu'il va le consommer. Mais c'est un risque haram, il l'a volé, il assume sa responsabilité. Donc Allah Azza wa Jal ordonne aux anges d'écrire quand on est dans le ventre de notre mère, à l'avance, tout ce que tu vas consommer et aussi ce que tu vas vivre. Donc ce n'est pas toi qui décide de la minute où tu vas naître, et ce n'est pas toi qui vas décider aussi de l'heure où tu quitteras ce monde-là. Alors, on a des hadiths où on nous parle que celui qui fait la sadaqa, Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il vivra plus longtemps. Ça, c'est qu'Allah Azza wa Jal fera la baraka dans la vie de cette personne. Allah Azzawajal fera la baraka. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont vécu dans leur vie 80 ans, 90 ans, mais ça est passé tellement vite, il n'a rien fait de bien dans sa vie. Et par contre, vous avez d'autres, vous avez Imam Nawawi qui a vécu 46 ans, mais regardez l'œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait comme bien, qu'est-ce qu'il a écrit comme ouvrage dans sa vie. Vous avez Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, qui est mort, il a vécu 56 ans seulement. Regardez ce qu'il a laissé comme ouvrage, comment il a marqué, c'est-à-dire l'histoire de la pensée humaine, non seulement musulmane, de ce qu'il a écrit. Et tous les grands savants, les grands ulama, qu'Allah Azza wa Jalla, comment il fait la baraka. Vous trouvez quand on dit Abu Hanifa, subhanallah, il fait deux rak'at qu'avec cette hadith. Allah Azza wa Jalla fait la baraka dans le temps de ces gens-là qui peuvent faire beaucoup de choses que d'autres ne peuvent pas faire dans un temps si peu. C'est ça que Allah Azza wa Jalla, quand on dit il faut faire la sadaqa pour qu'Allah Azza wa Jalla fera la baraka dans notre temps. On a un hadith sahih qui dit Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibuh. C'est-à-dire, quand on dit la seule chose qui fait augmenter, c'est-à-dire l'umr, il étale, c'est pas qu'il a été destiné à vivre 70 ans, il vivra 90 ans. Non, c'est qu'on a dit qu'il y aura de la baraka. Aussi, le péché, c'est vice-versa. Quand quelqu'un fait des péchés, etc., là, il est en train d'enlever la baraka, c'est-à-dire il sentira pas son temps, il pourra pas faire beaucoup de choses dans le temps qu'il a. Il n'aura plus de temps, il verra. Il verra le temps passer vite et sans faire quelque chose. Non. Alors, tout ça pour parler de Ajal. Donc le Ajal, c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour chacun de nous. C'est lui qui a décidé telle personne, pourquoi elle vivra tant d'années et comment elle va mourir. C'est Allah Azza wa Jal qui décide que telle personne mourra de cette façon-là, mais tout en assumant la responsabilité si elle a été tuée par une autre personne. Un grand débat qui a été entre les sunnites et les mu'tazilites sur le fait que quelqu'un qui a été tué, pour quelques chouurs mu'tazilites, ils disent non, celui-là il devrait vivre tant, mais celui-là il porte la responsabilité puisqu'il y a coupé sa vie. Que sais-tu de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va vivre? Comment tu peux savoir ce qu'il va vivre? Non, tu portes la responsabilité. C'est Allah qui crée l'acte. Mais c'est toi, rappelez-vous, quand on a parlé du qada ou qadar, l'homme ne fait qu'acquérir, c'est-à-dire c'est l'acquisition de l'acte. Tu portes la responsabilité de l'avoir tué, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance que toi, tu tueras cette personne à telle date, donc il a dit, celui-là, il mourra à telle date. Donc ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a forcé, obligé la personne de faire l'acte du mal, comme aussi l'acte du bien. Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce personnage-là, qui va être tombé malade gravement et que tous les médecins vont croire qu'il va mourir quand il avait 50 ans, Allah Azza wa Jal sait à l'avance qu'il va y avoir un médecin qui va lui donner un médicament, qui va avoir un bon remède et qui vivra jusqu'à 90 ans. Donc Allah Azza wa Jal a mis qu'il vivra 90 ans parce qu'il sait à l'avance, le fait qu'il sait à l'avance. C'est Allah Azza wa Jal, c'est sa science, ilmuhu yuhit, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle domine toutes choses, elle sait toutes les choses, comme on a parlé de l'attribut de la science, elle sait toutes choses dans ses fins détails, sans qu'il y ait avant une ignorance de la chose. Nous, avant d'apprendre une chose, on est ignorant, on ignore comment la chose allait, on apprend, ensuite on va arriver à connaître la chose. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait les choses comme elles sont, sans avoir les ignorer à l'avance. Donc il sait que toi, telle date, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est pour ça qu'on dit c'est du mektoub. C'est-à-dire, c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est écrit? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance tout ce qui va se passer dans ta vie. Donc, il a ordonné à la plume d'écrire cela dans la table bien gardée. Donc, je vais me limiter à cela, Inch'Allah. La prochaine fois, donc on a le week-end prochain, il y a cours. Mais celui d'après et celui d'après, il n'y aura pas cours. Donc, mais le week-end prochain, il y aura cours, Inch'Allah. Donc, on traitera dans les prochains cours de ce que c'est que l'ego et de la fin du monde, comment ça va se passer, etc. etc. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ربنا لا تذلنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها رحمة رحمة. نمضى الله سبحانه وتعالى que chacun de nous et de vous qu'il donnera à chacun ce qu'il a de bon dans son cœur et que les intentions qu'Allah Azza wa Jalla les dirige tous dans le bon chemin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رسوله الحمد لله. جزاكم الله خير.
J'aurais besoin de l'aide. Hier, on avait.
Vous avez gardé, laissé des choses là-bas.
Oui, oui, on est resté jusqu'à aujourd'hui matin ici. On a beaucoup de choses à étudier en train. Tout le matériel qui est là.